Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. C'est une activité physique bonne pour la santé, idéale pour renforcer le cœur, les articulations, les muscles, les os, qui contribue à conserver la ligne et qui diminuerait notre niveau de stress. La course à pied, le running, le jogging, appelez cette activité comme vous le voulez. Mais comment s'y mettre ou s'y remettre après des années d'arrêt? Comment bien commencer sans se blesser? Quel est l'équipement idéal? Comment ne pas se décourager, rester motivé? Quelle est l'alimentation adaptée? Que manger avant et après une sortie? Quels sont les bienfaits sur notre santé prouvés par la recherche scientifique? Peut-on s'y mettre après 50 ans et plus? Y a-t-il un âge limite? Nos experts vous répondent au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Racontez-nous si vous aimez courir un peu, beaucoup, passionnément ou alors pas du tout, comme notre réalisateur David Le Prince. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Notre médecin et romancier au menu de votre chronique vers 11h20.
On va parler vélo, visite à domicile, vivre ensemble, tout ça, tout ça.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, à vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
J'adore ça, enfin j'adore ça. Enfin ça, c'est que je suis contente d'en avoir fini avec la tyrannie du jogging, là. Non, parce que alors, franchement, je sais pas vous... Mais moi, je suis intimement convaincue que l'humain n'est pas fait pour courir. Ah bah c'est évident, je veux dire, on n'est pas fait pour ça. Tu vois bien comment on en chie, regarde ça. On a l'air de quoi, là, on sait pas quoi faire des pattes avant, là. On transpire comme des bœufs, on souffre comme des porcs. On a des points de côté, enfin c'est laborieux. Je veux dire, les animaux, ils galopent comme ils respirent. T'as jamais vu un guépard s'arrêter en pleine course parce qu'il a un point de côté, mec.
Et vous avez reconnu Florence Foresti. Bonjour professeur Martine Duclos.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans cette émission. Vous êtes en duplex de France Bleu Auvergne. Vous êtes endocrinologue et physiologiste et vous êtes responsable du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Bonjour professeur Irène Margaritis.
Bonjour Ali.
Ravi de vous retrouver également. Vous êtes adjointe du directeur de l'évaluation des risques à l'ANSES. Rappelez-nous ce qu'est l'ANSES en quelques mots.
Qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Et vous nous direz quelle est l'alimentation idéale quand on court. Vous nous direz également s'il est bon d'aller courir à Jean. Bonjour Nicolas Tikhomirov.
Bonjour Ali.
Alias Monsieur Clavicule en duplex de France Bleu, Aix-en-Provence. Vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe et vous avez publié chez Albin Michel Bien dans votre corps. Bonjour Philippe Marca. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef adjoint de Jogging International et vous avez publié chez First « Je pratique le running pour les nuls ». Vous êtes marathonien ou ancien marathonien. Vous pratiquez toujours le marathon? Est-ce que vous pratiquez toujours le marathon?
Non, l'âge aggravant, donc je ne pratique plus, honnêtement je vous le dis, je ne pratique plus le marathon. Oui. J'en ai couru pas loin de 50, si je peux dire, dans ma carrière. Mais maintenant, je cours sur des distances, disons, beaucoup plus courtes.
Mais vous avez l'air tout jeune, Philippe Maca. La première question tombe sur vous. Pourquoi aimez-vous courir? Quel plaisir tirez-vous de la course à pied? Pour certains, c'est une activité ennuyeuse et douloureuse. Et pour vous?
Non, au contraire. Quand on court, si vous voulez, on se sent mieux, dans son corps, quand on a couru, et dans son... Je peux dire dans son mental aussi. Parce que quand on court, on produit ce qu'on appelle des endorphines.
On va y revenir.
Ce sont des molécules, donc, qui assurent votre, qui vous procurent un certain bien-être.
Mais quel est votre plaisir à vous d'endurer des longues courses, notamment en faisant des semi-marathons, des marathons? Racontez-nous ce plaisir particulier.
C'est un plaisir. En fait, c'est d'abord un plaisir de courir, comme je vous l'ai dit, parce que vous vous sentez mieux dans votre corps, dans votre mental. Et puis ensuite, c'est un défi.
Oui.
C'est un défi parce que vous allez essayer de courir d'abord un 10 km, puis un semi-marathon, puis un marathon. Et ensuite, comme tous les coureurs, ben vous allez essayer de battre votre record sur toutes ces distances.
Nicolas Tikhomirov, pourquoi éprouvez-vous du plaisir à courir? Je vous ai vu dans certaines vidéos, vous pratiquez la course à pied. Racontez-nous un petit peu.
C'est ça, c'est un challenge, vraiment, il faut le voir comme ça. On va essayer de se challenger, de repousser les limites de notre performance physique. Et puis aussi, on est quand même en communion aussi un petit peu avec la nature. Quand on fait du trail, on peut courir avec des amis. Donc, c'est quand même quelque chose qui se partage aussi. Donc, c'est vraiment, moi, je prends beaucoup de plaisir à être dehors et pouvoir voir des beaux paysages et en même temps me surpasser.
Professeur Martine Duclos, vous pratiquez la course à pied ?
Je pratique encore un peu, mais surtout j'ai maintenant, en vieillissant aussi, je préfère alterner, c'est-à-dire à la fois faire un peu de finesse, de la rando, du tennis, parce que les articulations commencent à faire un petit peu mal de temps en temps.
Alors dans cette émission, professeur Martine Duclos, nous invitons régulièrement les auditeurs à bouger, à pratiquer une activité sportive, comme la marche. Courir, c'est une activité qui ne coûte pas cher, toute simple. On évoque souvent des raisons santé pour s'y mettre. Pourquoi courir est-il bénéfique pour notre état de santé général ?
Alors là, tout simplement parce que, en fait, vous imaginez bien que quand vous courez, vous allez augmenter vos besoins en oxygène. Donc, en fait, tout votre organisme va s'adapter. Donc, ça passe par la respiration, ensuite par le cœur qui va s'adapter. Alors là, les adaptations sont pas forcément très importantes, mais ce qui est plus important, c'est tous les petits vaisseaux, ce qu'on appelle les micro-vaisseaux, les capillaires, qui vont aller aux muscles, qui, eux, vont se multiplier. Et puis, dans le muscle, en fait, il y a les usines métaboliques que sont les mitochondries qui vont aussi se augmenter de taille, se multiplier, avoir plus d'enzymes. Et in fine, en fait, votre muscle va s'habituer, en fait, va devenir de plus en plus performant, si on peut dire. Et en plus, vous allez habituer votre organisme à plus utiliser les graisses à des fins énergétiques plutôt que les glucides. Donc en fait, vous allez apprendre à avoir un organisme qui est capable d'utiliser les graisses plutôt que de les stocker. Donc en fait, ça diminue tout ça, les facteurs de risque cardiovasculaire, plus les effets aussi sur le cerveau, ça favorise les connexions cérébrales, les effets sur le bien-être, ça a bien été dit, ça diminue le stress, donc c'est pour ça que en fait, vous vous sentez bien à la fois simplement à la suite d'un exercice, et puis il y a les effets de l'entraînement, de la répétition, qui vont en fait potentialiser tous les effets de la répétition des exercices.
Arrêtons-nous sur la santé cardiovasculaire. Pourquoi ça améliore la santé cardiaque, notamment le rythme cardiaque ? Et si on est atteint d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque, est-il conseillé ou pas de se mettre ou de se remettre à la course à pied ?
Alors, insuffisance cardiaque, non, quand même pas. Parce que là, je veux dire que les limites respiratoires sont que, et surtout de performance cardiaque font qu'on va pas mettre les gens à la course à pied. Par contre, on va les mettre à la marche à pied, qui peut être de plus en plus rapide. Quand on a des problèmes, effectivement, d'hypertension artérielle, effectivement, c'est bien montré. Parce que souvent, quand on a une hypertension artérielle, on a les vaisseaux qui sont un peu rigides. Et en fait, l'activité physique va permettre de restaurer au niveau de ces vaisseaux ce qu'on appelle une compliance, c'est-à-dire une capacité à se dilater pour justement augmenter le flux artériel. Et puis d'un autre côté, comme l'hypertension est un facteur de risque cardiovasculaire, ça diminue les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Vous avez justement un taux de glucose qui est meilleur, un taux de cholestérol qui est meilleur, et puis une fréquence cardiaque au repos qui diminue. Donc tout ça, vous allez économiser votre cœur parce qu'effectivement, il va travailler moins à l'effort et puis il y aura moins d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Même chose quand vous avez fait un infarctus du myocarde. Parce que la première chose que l'on fait en réhabilitation cardiaque, c'est qu'on va vous mettre sur un vélo, on va vous apprendre effectivement à faire de l'exercice, savoir à quelle fréquence cardiaque vous ne devez pas dépasser. Puis après, effectivement, vous pouvez très bien vous mettre à la marche à pied, à la course à pied, en respectant effectivement une certaine intensité.
Pouvez-vous nous préciser en quelques mots ce qu'est la fréquence cardiaque et comment on la calcule ?
Ah, la fréquence cardiaque, c'est le rythme auquel votre cœur bat. Mmh. Alors pour le calculer, vous mettez la main soit sur le poignet, mais quand le cœur va vite, c'est pas évident. Mmh. Le plus simple, c'est de le mettre au niveau du cou, au niveau des carotides, donc juste sous les oreilles. Vous mettez vos trois doigts et puis là, vous comptez, vous prenez 20 secondes sur votre montre. Et vous comptez le nombre de battements sur 20 secondes et vous multipliez par 3. Et vous avez votre nombre de battements par minute.
Alors on a dit que la course à pied était bonne pour le moral. Par quel mécanisme précis la course à pied contribue à baisser le stress chronique, à améliorer notre bien-être ? On parle souvent de ces fameuses endomorphines qu'a évoqué Philippe Macca. Expliquez-nous comment ça fonctionne et au bout de combien de temps ressent-on les effets de ces endorphines, de ces hormones ?
Alors, les endorphines, c'est bien, mais il y a beaucoup plus que ça. Ça augmente la sérotonine, ça augmente la dopamine, qui est vraiment le messager du plaisir. Donc ça, c'est un effet de neurotransmetteur, si vous voulez, de messager. Et puis, ça agit sur plein de zones cérébrales, c'est-à-dire que ça va allumer les zones cérébrales qui sont impliquées dans le plaisir, et à l'inverse, ça va éteindre toutes celles qui sont impliquées dans le stress, l'anxiété. Donc, vous voyez, c'est doubles effets. Et puis, de façon chronique, on sait qu'on a une zone qui est impliquée dans l'humeur, c'est l'hippocampe. Et on sait que quand on est très stressé, le volume de l'hippocampe diminue. Et bien, à l'inverse, quand on répète l'activité, donc quand on s'entraîne, et bien, on voit le volume de l'hippocampe qui augmente. Donc, ça veut dire que là-dedans, vous avez plus de neurones. C'est une zone où les neurones continuent à se multiplier, même chez le sujet adulte. Donc en gros, c'est comme si vos neurones repoussaient parce que effectivement, l'ambiance hormonale, métabolique et les messagers font que, eh bien, cette zone, elle va pouvoir repousser. C'est un peu comme des plantes qui ont été bien arrosées et arrosées régulièrement. Alors à partir de quand ? Alors il y a l'effet aigu, c'est immédiat. Enfin, c'est immédiat. Non. C'est généralement quand les gens ont pris l'habitude de s'entraîner. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de course à pied depuis 10 ans et que vous vous mettez à courir, souvent la première séance, elle est un peu dure. Et en gros, il faut 2-3 mois pour que, au cours d'un exercice, vous vous sentiez bien. Et pour avoir vraiment des effets de l'entraînement, c'est ça. C'est en gros 8 semaines. Mais à condition de ne pas faire n'importe quoi.
Vous confirmez, Philippe Macca ?
Oui, oui, je confirme tout à fait que, donc, il faut quand même plusieurs semaines avant de se remettre, de retrouver le bon rythme.
Et comment ne pas se décourager justement quand on s'y remet, que c'est difficile et on se dit bon allez, à quoi bon continuer, ça fait mal quand même de courir, en tout cas dans les premiers temps.
Ça fait mal, mais il faut, encore une fois, c'est une question, comme j'ai dit, une question de mental aussi. Il faut se persuader que c'est une activité quand même qui est à la portée de tout le monde, que vous pouvez pratiquer facilement. Et ce qui est très important, c'est que plus vous allez courir, plus vous allez progresser, plus vous allez vous sentir mieux. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Et si on est un petit peu en difficulté à un certain moment, il faut quand même continuer. Et puis après, ben, on se sentira de mieux en mieux avec le passage des minutes, des kilomètres de course.
Vous confirmez, Nicolas Tikhomirov, hein ?
Absolument. Alors, il y a un gros piège quand on se remet à la course à pied, c'est le trop vite, trop fort. Il faut vraiment commencer très progressivement, très doucement. Vous imaginez que, ben moi, j'ai souvent des patients qui viennent et qui me disent, j'ai repris la course à pied, j'ai couru 40 minutes et j'ai une douleur qui est apparue à un genou, par exemple. Et moi, je leur explique, mais vous savez que 40 minutes de course à pied à une cadence de 180 pas par minute, ça fait 7200 impacts. Pour un corps qui n'est pas encore adapté, les tendons, les articulations, c'est beaucoup trop de stress mécanique d'un coup. Donc il faut vraiment expliquer aux gens qu'il faut reprendre très doucement. Ça peut commencer par des premières séances juste avec une minute de marche, une minute de course, et commencer à créer des adaptations tissulaires vraiment progressivement. Sinon, c'est de suite la blessure et il faut faire très très attention au trop vite, trop fort.
Professeur Irène Margaritis.
Oui, je veux bien rebondir sur cette question de progressivité, ce qu'on a évoqué aussi quand on considère les effets bénéfiques de l'activité physique d'une façon générale et qu'on part d'une situation où on n'est pas particulièrement actif. La progressivité, c'est vraiment la clé aussi pour les, ce qu'on appelle les réponses adaptatives, c'est-à-dire qu'on va commencer tranquillement et puis on va augmenter. Et puis je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut vraiment s'écouter, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, en fonction de l'âge, en fonction du passé sportif, la perception et la qualité des adaptations et la vitesse des adaptations est très variable. Donc c'est vraiment à chacun d'écouter et de sentir, oui, quand on sent que c'est un peu dur, on peut continuer, mais pas trop non plus, parce que au-delà, on bascule dans une situation dans laquelle justement les réponses adaptatives ne peuvent pas se faire. Et là, c'est soit la blessure, soit une forme de burn-out sportif qu'on appelle le surentraînement.
Marc nous écrit qu'il n'ose pas se remettre à la course à pied car il continue à fumer régulièrement. Professeur Martine Duclos, c'est compatible de courir et de fumer régulièrement ?
Alors, oui, c'est compatible, mais moyennant deux conditions. La première, c'est d'aller voir son médecin pour faire un check-up, enfin au moins savoir s'il a d'autres complications, enfin d'autres facteurs de risque. Est-ce qu'il n'est pas un peu hypertendu ? Est-ce qu'il a un petit peu de surpoids ? Parce que là, on calcule un facteur de risque, un score de risque cardiovasculaire. Et s'il y a vraiment un score qui atteint une certaine valeur, là, on va peut-être faire le bilan un peu plus loin, au moins un électrocardiogramme, peut-être une consultation cardio, enfin au moins prendre sa tension artérielle. Bon, s'il n'y a pas de ces facteurs de risque, on va lui dire justement de reprendre doucement, parce que là, effectivement, il va très vite être essoufflé. Et justement, le fait de faire de la course à pied va le motiver à arrêter. Et la deuxième chose qui est un élément très important, et le nombre de fois où je vois ça, ça me fait parfois un petit peu bondir, surtout quand on a fait un effort, une activité physique ou sportive, on ne fume pas dans l'heure qui suit. Parce que fumer après un effort produit une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrement des artères coronaires, et ça donne des infarctus sur des coronaires saines. Donc on ne fume pas une heure après un exercice. De même, on ne prend pas de douche dans les 30 minutes suivant un exercice.
Message très très important ce matin, oui. Professeur Martine Duclos. Vous confirmez, professeur Margaritis, hein ?
Oui, je confirme absolument. Il me semble bien aussi que la mobilisation des alvéoles pulmonaires plus importantes expose une plus grande surface des alvéoles à la fumée de cigarette après l'effort.
Professeur Martine Duclos, pourquoi la douche ? Pourquoi ne faut-il pas se doucher tout de suite après avoir couru ?
Parce que l'ambiance chaude aussi peut provoquer des modifications au niveau des artères coronaires et peuvent provoquer aussi un infarctus sur des artères saines.
Je vais arrêter de me doucher juste après la course à pied.
Alors, si vous préférez, c'est un choix personnel. Hein.
En tout cas, Philippe Maca, vous devez bien dormir. Parce que ça contribue à un bon sommeil de courir très régulièrement. Hein. Vous vous confirmez à titre personnel ?
Non, mais tout à fait, hein, tout à fait. Je vous ai dit, ça contribue à se sentir mieux, comme je vous l'ai dit, dans son corps, et aussi à mieux dormir, parce que vous êtes un peu fatigué aussi. C'est une saine fatigue, exactement. Et ensuite, vous dormez, votre sommeil est amélioré aussi.
Mais attention, mieux vaut ne pas courir le soir pour ne pas élever la température corporelle qui peut empêcher de dormir, professeur Margaritis.
C'est ce que j'allais dire, exactement. Merci, Ali.
Évitez de faire du sport, vous, le soir.
Le soir, voilà, on essaye de faire en sorte de s'endormir avec une température centrale.
Philippe Maca, dans votre livre, vous dénombrez quelques excuses pour ne pas aller courir. J'en ai retenu cinq. Quatre ou cinq. On peut ne pas courir parce qu'on trouve ça fatigant.
C'est fatigant, non. Mais comme on l'a dit, il faut savoir comment on va courir, si je peux dire. C'est comme on l'a dit, alterner, si l'on est fatigué, course et marche, et à la fin, vous ne serez pas fatigué. C'est une question de pratique, en fait, de méthode, de bien courir, de ne pas aller trop vite non plus. Parce que, comme on l'a dit, si vous courez trop vite, rapidement, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous allez vous fatiguer, vous allez donc renoncer facilement. Donc, il ne faut pas courir trop vite, et puis, si besoin, alterner course et marche.
Alors, il y a une phrase que j'entends souvent, je ne cours pas parce que c'est ennuyeux, je m'ennuie quand je cours. Vous levez les yeux au ciel.
C'est ennuyeux. Non, parce que comme on l'a dit là aussi, je me répète un petit peu ce qui a été dit, on peut profiter du décor, on peut profiter du paysage. C'est très agréable d'aller courir dans un parc, par exemple, ou en nature, et de regarder le paysage, le décor naturel qui vous entoure. Et là, donc, c'est pas du tout ennuyeux. Au contraire, c'est motivant.
Nicolas Tikhomirov, il y a une phrase qu'on entend aussi, hein, parfois, c'est « je suis trop vieux pour courir ». J'ai plus l'âge.
Alors, ça c'est absolument faux. Il n'y a pas d'âge pour courir. Au contraire, j'ai envie de dire, pour prévenir, par exemple, le risque d'ostéoporose, on sait que courir, ça diminue jusqu'à 70% ces risques-là, les maladies cardiovasculaires, on en a parlé. Donc, non, il faut juste être très progressif et ne pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel, quelqu'un qui a été formé, qui a été spécialisé dans la prise en charge ou des blessures ou de l'entraînement en course à pied, pour pouvoir mettre en place un programme et le suivre. tout simplement. Les gens, en fait, on disait tout à l'heure, les gens doivent écouter leurs signaux, s'écouter, mais en fait, quand on leur dit, il va falloir courir que 6 minutes avec une minute de course, une minute de marche, ils rigolent, ils disent, mais c'est une blague, ils se foutent de moi, en fait. Moi, j'ai envie de courir d'un coup une demi-heure. Mais en fait, il faut vraiment leur faire comprendre que cette notion de progressivité, elle est essentielle pour créer les bonnes adaptations à la course et progresser au fur et à mesure. Et en fait, il y a peu importe l'âge, on peut commencer à courir à 60 ans, 70 ans. Il faut juste mettre en place les bons comportements d'adaptation et de protection au niveau de la course à pied.
Voilà une bonne nouvelle en ce début de semaine, Irène Margaritis.
Et aussi la technique de course, on se rend compte que souvent la blessure vient du fait que on pense savoir courir, mais courir c'est complexe. Donc on l'apprend peut-être pas forcément très bien à l'école. Nos collègues d'éducation physique et sportive font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas beaucoup de temps non plus au collège et au lycée et à l'école primaire pour enseigner les techniques de course. Donc il faut avoir en tête aussi que c'est pas forcément totalement inné pour tout le monde.
Dans quelques instants, comment prendre soin de ses articulations? Comment éviter de se blesser? Ce sera juste après les Rolling Stones. Jumpin' Jack Flash à 10h27. Stones interprété Jumpin' Jack Flash.
Allez, qu'est-ce que tu fous là? Avance, Alex!
Oh. Ah, j'en peux plus!
Grand bien vous fasse.
Allez, il faut continuer, Alex.
Ah, je veux pas qu'on se repose un petit
non,
peu.
Non, ça pète les jambes. Allez, on
va. Un tout petit peu, s'il te plaît.
Non!
Ali Rebéi.
Tu peux plus?
Non, je suis crevée. Hein.
Tu peux plus? Mais pense à la taille de ton cul, tu vas avancer, tu vas voir.
Sur France Inter.
Sympa comme réflexion ce matin, des conseils pour se remettre ou se mettre à la course à pied sans se blesser, en préservant ses articulations. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Racontez-nous pourquoi vous courez.
Je trouve que c'est bien de bouger, ça fait une chaleur dans tout le corps, on se sent très bien après.
C'est dur pendant 10-20 minutes et ensuite ça va mieux, quoi. Et puis à la fin on se sent bien.
Après une journée de travail, voilà, ça permet d'évacuer, tout le stress de la journée, il part.
On se vide la tête en fait, on pense à rien, on est très surpris que les jambes continuent, elles sont hors de contrôle.
Extrait de France 3 Grand Est en 2019 et nous accueillons Nadine. Bienvenue Nadine.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes une coureuse depuis longtemps ?
Non, non, pas du tout. J'ai 60, bientôt 61 ans et je me suis mise à la course à 55 ans, donc il y a 6 ans.
Racontez-nous le déclic, tiens, pour tous ceux qui, par exemple, ont plus de 50 ans et n'osent pas s'y mettre.
J'avais une amie qui travaillait dans une entreprise et dans laquelle il y avait une jeune femme qui était animatrice sportive. Il y avait quelques années qu'elle avait arrêté et elle a constitué un groupe. Et donc mon amie m'a proposé de me joindre à ce groupe et voilà, je me suis mise à la course en me disant que j'y arriverais pas parce que effectivement elle nous faisait commencer par des séries de courses, marches et autour d'un étang et je me disais quand j'arriverai à faire un tour de l'étang, je pense que il y en a pour très longtemps. Et puis non, c'est venu et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et donc, voilà, le groupe n'existe plus, mais je continue à courir toutes les semaines avec beaucoup de plaisir.
Vous continuez à courir en groupe, avec des amis ou toute seule ?
Alors non, je cours avec une amie. Et puis, si elle n'est pas disponible, je cours toute seule. Mais il m'est arrivé, là, il y a un petit moment, parce que j'ai eu une opération du ménisque, donc j'avais arrêté un petit peu, mais j'ai fait des trails en famille, parce que j'ai deux frères qui courent, une sœur qui a 69 ans, qui court aussi. Et donc on fait ça en famille, ou avec des amis, ou toute seule, si je peux pas autrement.
Quel conseil avez-vous envie de donner à tous ceux qui, passés 50 ans, n'osent pas s'y remettre ? Vos conseils, vous qui avez repris à 55 ans ?
Eh ben moi je pense qu'il faut y aller doucement d'abord effectivement y aller doucement et puis prendre du plaisir en tout cas moi j'en prends dans la nature à regarder ce qu'il y a à droite et à gauche même si effectivement ça fait cliché je disais que le paysage effectivement n'est jamais le même d'un jour à l'autre hein mais y aller doucement et prendre du plaisir.
C'est peut-être cliché, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai.
Merci.
Quelquefois, je me dis, c'est compliqué quand on part. Il y a des jours où on n'est pas très, très en forme. Et je me dis, oh là là, parce que j'aime bien faire mes 10 kilomètres. Et c'est dans la tête. Et donc, je me dis, bon, si ça se trouve, je vais faire un tour. Et puis le deuxième, je vais pas pouvoir. Hein. Et je sais que si j'ai pas fait mes 10 kilomètres, je m'arrêterai pas. Voilà.
Ah, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait tenir?
Je pense que c'est dans notre caractère où je pense quand je dis ça, je dis dans notre caractère, ma famille, on a beaucoup de rigueur en fait. Et moi je me dis, si j'ai pas couru mes 10 kilomètres, c'est que j'ai été faible. Et donc même si quelquefois j'arrive devant la maison et j'ai fait que 9 700 km, je repars et je me dis non, il faut faire les 300 mètres, c'est pas possible, tu vas pas t'arrêter avant.
Merci beaucoup Nadine, permettez-moi de vous offrir la revue Grand Bien Vous Fasse, Quel sens donner à sa vie, qui vient de sortir en librairie et en kiosque. Voilà, laissez vos coordonnées, on va vous l'envoyer.
C'est gentil, merci.
Monique nous demande s'il faut commencer par la marche rapide avant de se remettre à la course à pied. On a un peu répondu à cette question, Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule, je rappelle que vous êtes kiné et ostéopathe.
Oui, elle peut commencer par ça. Après, je pense qu'elle peut se faire accompagner avec un petit programme d'alternance entre marche et course. Et commencer, alors ce qu'il faut penser, c'est commencer à courir en continu. C'est pas avant 4 à 6 semaines. Donc c'est vraiment, ça peut prendre du temps de créer des adaptations à la course à pied pour ne pas risquer de se blesser. Hein. C'est dommage parce que alors là, vraiment, si jamais on commence la course à pied et on se blesse au bout de quelques semaines, ça peut vraiment dégoûter et faire abandonner totalement. Donc je pense que cette notion de progressivité est essentielle, mais pourquoi pas commencer par de la marche. Oui, ça c'est bien.
Quand je cours, quel est l'impact sur mon squelette, sur mes articulations, sur mes os? Racontez-nous un petit peu, Nicolas Tikhomirov.
Alors l'impact, il est assez important en fait. Hein. On va mesurer ça avec la vitesse de force d'impact vertical qui va varier selon comment est notre foulée. Si on attaque avec le talon, elle va être plus importante que si on a une attaque au niveau médio-pied ou avant-pied. Donc ça va dépendre un petit peu de notre comportement et de notre biomécanique de course. Donc c'est pour ça qu'on invite plutôt les gens à essayer de courir avec une attaque médio-pied et surtout à avoir une cadence de course assez élevée. Les Les gens qui courent de façon récréative, ils ont une cadence aux alentours de 160 pas par minute. Et c'est important d'essayer d'augmenter cette cadence.
Pourquoi ?
Vers les 180.
Pourquoi ?
Pour pouvoir diminuer l'impact qu'a la foulée, en fait, sur tout notre corps. Donc, pour ça, on peut mettre un métronome à 180, où les montres, maintenant, peuvent nous dire à quelle cadence on court. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à courir en faisant des petits pas et en essayant de faire des pas les plus légers possibles, sans faire de bruit. Il faut être léger comme une plume. Il y a des gens qui courent et ça tape fort, ça fait du bruit. Ben, ça, c'est très traumatisant au niveau biomécanique. Donc, il faut essayer de faire des petits pas et courir très léger. Et comme ça, on va diminuer vraiment l'impact et on aura une foulée la plus naturelle possible, celle qui ressemble à la foulée pieds nus, en fait. Moi, souvent, je fais courir mes patients pieds nus parce qu'ils vont devoir adapter leur course pour ne pas se faire mal aux pieds. Et là, on a vraiment une course qui est protectrice. Et c'est cette course-là qu'il faut essayer de retrouver quand on court avec ses chaussures.
Pieds nus, pas n'importe où, tout de même.
Pas n'importe où, évidemment, mais ça s'adapte. Sur un tapis de course, on peut le faire.
Exactement.
Sur une zone, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui puissent nous blesser. Il faut faire très attention. Mais ou alors courir avec des chaussures qu'on appelle minimalistes, qui ont moins d'amortis et qui vont nous permettre d'avoir une foulée qui est beaucoup plus proche du naturel.
Vous allez dans ce sens, Philippe Macca, vous avez publié « Je pratique le running pour les nuls ».
Oui, tout à fait dans ce sens. C'est-à-dire que il faut, pour les problèmes des chaussures, il faut bien choisir aussi ses chaussures. Hein, surtout acheter des bonnes chaussures, ne pas prendre des chaussures de tennis ou des chaussures de, je dis n'importe quoi, de basket. Il faut prendre des chaussures faites pour la course à pied. Et si possible, pourquoi pas aller consulter son podologue qui vous donnera les meilleurs conseils possibles pour votre pied, pour courir, pour bien courir, pour bien amortir, etc. Et puis donc ne pas vous blesser.
On reviendra tout à l'heure sur le choix de la bonne chaussure. Oui. Nicolas Tikhomirov, que conseillez-vous à ceux qui reprennent la course à pied après une blessure au pied, au genou, au dos? Le premier conseil, c'est peut-être de mettre la zone douloureuse au repos, mais
voilà,
le moins longtemps possible.
Le moins longtemps possible pour que derrière on puisse de suite consulter son thérapeute et commencer à renforcer la zone, à comprendre déjà pourquoi on s'est blessé. Hein. On sait qu'en course à pied, 80% des blessures viennent d'un problème d'entraînement. En fait, c'est quand on a changé. Le changement, c'est la cause de blessure. On a augmenté le volume de l'entraînement, on a augmenté l'intensité, on a augmenté le dénivelé de façon trop rapide, trop soudaine. Et on s'est blessé. Donc déjà, ça, il faut l'identifier. Et ensuite, mettre en place avec son thérapeute, donc un kiné par exemple, qui est spécialisé dans la prise en charge des blessures en course à pied, pour faire du renforcement musculaire, trouver une activité de transfert, faire une modulation de l'entraînement, voire faire une analyse de course pour voir quelle est la foulée, quelle est la cadence, pouvoir faire des petits changements de paramètres pour pouvoir remettre la personne sur les bons rails et qu'elle puisse reprendre son activité.
Professeur Martine Duclos, chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand.
Oui, et puis au-delà des chaussures et de la technique, pensez simplement à s'hydrater. Mmh. Parce que voilà, on doit boire avant, boire pendant et boire après. Ne pas oublier de boire après aussi. Et puis aussi, alors on en voit encore, peut-être de moins en moins, mais j'en vois encore. Voilà, le bon habillement. Et le bon habillement, c'est pas mettre tenue kawaii complète quand il fait chaud, en se disant je vais perdre 2 kilos. Voilà, si on perd 2 kilos de sudation, c'est l'eau, on est fait de 70% d'eau, et bien sûr, on va avoir soif après et on va récupérer ça. Donc voilà, être habillé pour, de façon en été, ben, un short et un t-shirt respirant, des t-shirts techniques, hein. Et puis l'hiver, on s'habille et on se met un bonnet sur la tête. On perd 50% de la chaleur au niveau de la tête, les doigts. Et pareil, on court pas quand il fait, des fois des gens, il fait 0 degré, ils sont en short et t-shirt. Non, on court pas pour perdre du poids.
Ou alors, on voit aussi, les beaux jours reviennent, on voit aussi des personnes de 40, 50 et plus, et même moins, mais qui courent en plein cagnard, en plein soleil, entre midi et 16 heures. Évidemment, on évite ça, professeur Duclos, on évite de courir à ces heures-là. Oui, c'est évident, on le voit encore souvent.
Vous avez tout à fait raison, malheureusement, je dis c'est évident, mais le bon sens n'est pas toujours bien appliqué. Il faut savoir qu'on peut on est assez doué pour lutter contre le froid. Par contre, on a des mécanismes qui sont pas forcément très efficients pour lutter contre la chaleur. On a la transpiration, mais on a quand même des limites. Et quand la température corporelle augmente, le risque, c'est le coup de chaleur. Et on peut décéder d'un coup de chaleur. Donc, surtout quand on n'est pas très entraîné. Quand on est très entraîné, le volume sanguin augmente. Donc, ça nous aide effectivement à lutter contre la chaleur. Mais quand on reprend l'entraînement, non. Donc, bien sûr, on prévoit quand il fait chaud. On s'entraîne plutôt tôt le matin ou tard le soir et on reste à l'ombre.
Professeur Irène Margaritis, que manger avant et après une sortie? Quelle est l'alimentation idéale? Faut-il forcément manger des pâtes, du riz la veille d'une sortie?
Alors c'est amusant, la question qu'on se pose, c'est ce qu'on mange avant, pendant et après, mais pas le reste du temps.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison.
Alors, on commence déjà le reste du temps. Oui, oui. Par s'alimenter de façon équilibrée. Alors bon, les repères alimentaires, que ce soit les repères du PNNS sur lesquels on
programme national nutrition santé
qui donne des repères pour ce qu'on appelle la population générale. Donc d'un seul coup, quand on est sportif, on considère qu'on doit, on n'appartient plus du tout à cette catégorie, et donc tout est très différent en fait, pas vraiment. C'est la même chose, mais on adapte un peu. C'est-à-dire que en fonction du volume d'entraînement, je dirais, les adaptations sont plus ou moins importantes. C'est-à-dire que de façon chronique, on va parler après de l'avant, pendant, après. De façon chronique, on va plutôt pencher vers des glucides. C'est très résumé. Hein. On va maintenir globalement ces apports en graisse, en lipides, en matière grasse. Et puis, de façon assez naturelle, parce qu'on va manger plus, justement, parce que la dépense énergétique est plus importante. Donc, pour une balance énergétique équilibrée, on va manger plus. Donc, comme on mange plus, on va apporter de façon mécanique plus de protéines. Si on mange proportionnellement plus les mêmes choses.
La veille, le plat de pâtes, le plat de riz.
Oui, alors la veille, ce qui est bien, de toute façon, c'est de partir en ayant ce qu'on appelle ces stocks de glycogène les plus élevés possibles.
C'est-à-dire
donc on en a, ce sont des glucides avec une certaine configuration qui vont nous permettre de tenir le coup pendant l'effort. Alors, il s'agit notamment des efforts de moyenne ou longue durée. Hein. On ne parle pas de sprint, c'est autre chose. Donc, quand je commence à courir, c'est bien que mes stocks soient suffisamment élevés pour que je puisse, au cours de l'effort physique, de l'exercice, puiser dans ce glycogène musculaire, de façon à assurer le travail que j'ai à faire, c'est-à-dire la course à pied. Alors, l'avant, pendant, après dépend aussi, alors, de la façon dont on s'est alimenté les jours et les semaines qui précèdent, du niveau d'entraînement, de la longueur, de la durée de la course à pied. C'est-à-dire que si c'est une très très longue durée, c'est pas tout à fait la même chose que si c'est un semi-marathon qui est déjà quelque chose, mais donc, le fait de manger des glucides la veille, effectivement, va permettre de stocker du glycogène qui va être utile.
En tout cas, il faut éviter de courir après avoir mangé, tout
alors,
de suite après.
Ça, c'est mécanique, c'est fonctionnel déjà.
Il faut attendre 2 à 3 heures, c'est ça?
Alors, ça dépend de ce qu'on a mangé, ça dépend du niveau de digestibilité de ce qu'on a mangé, de la quantité. Ça aussi, ça se perçoit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la digestion mobilise la masse sanguine, et cette masse sanguine qui est mobilisée pour digérer ne va pas être mobilisée pour courir, parce qu'on doit amener du sang aux muscles. Donc, essayez de manger, d'un point de vue pratique, essayez de manger des choses qui sont très faciles à digérer, peu de matière grasse, dans le temps qui précède. Selon la durée, on peut avoir ce qu'on appelle une boisson d'attente, qui est intéressante. C'est une boisson qui doit être isotonique, idéalement, et qui va apporter, qui peut être quasiment la même, à quelque chose près, sans rentrer dans les détails, que la boisson de course, et qui va permettre justement de maintenir le niveau de glycémie, c'est-à-dire de sucre dans le sang, à un niveau équilibré, qui va nous permettre de démarrer la course en étant à l'équilibre total. Et puis, on va continuer pendant la course.
Professeur Martine Duclos, est-ce que vous conseillez ou déconseillez de courir à jeun? Moi, à titre personnel, j'aime bien courir à jeun. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, vous allez me le dire tout de suite.
Non, je ne déconseille pas du tout. Moi aussi, j'avoue que j'aime bien courir à jeun, j'aime bien m'entraîner à jeun. Enfin, avant, j'étais complètement contre. Et jusqu'à ce que j'essaye, et en me rendant compte que, en fait, c'était pas mal du tout. Alors, ça, c'est pour des petites, c'est quelque chose qui ne dépasse pas une heure.
Et puis, c'est sous le contrôle du médecin. Quand on se remet à courir,
Absolument. Voilà. Voilà. Après, où c'est intéressant, mais là c'est plus Irène qui ira plus loin que moi. Bon, c'est pour quand on s'entraîne à courir peut-être plus longtemps à jeun, ça permet de, effectivement, certaines études montrent que ça permettrait d'augmenter la capacité à utiliser les graisses plutôt que le sucre. Mmh. Bon, ça ça reste très discuté. Mais en tout cas, il n'y a pas de risque pour la santé, sauf si on a une pathologie, qu'on est diabétique.
Exactement.
Et si on est en bonne santé, il y a pas de problème.
Irène Margaritis.
Alors j'ajouterais, oui, si on est en bonne santé et quand même un petit peu entraîné, parce que la capacité à utiliser les graisses justement à ce moment-là dépend aussi du niveau d'entraînement. Donc on peut commencer, mais le faire quand même progressivement.
Dans un instant, comment choisir la bonne paire de chaussures ? Ce sera juste après la chronique de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment je suis allé un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
10h46 et la France entière attend votre chronique, Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, vous savez que le métier de médecin généraliste est quand même assez sédentaire. On est assis à un bureau de consultation, on se lève pour examiner les gens, mais globalement, si j'arrive à la fin de la journée, que je compte le nombre de pas que j'ai effectués, il n'y a pas de quoi être fier non plus. Hein. Du coup, c'est toujours un moment de pur bonheur pour moi lorsque je pars en visite à domicile, que j'enfourche mon vélo rouge et que je pédale à fond de train. Me voilà redevenu un adolescent, c'est un pur moment de plaisir régressif. Je vole comme si j'avais 11 ans. C'est ma respiration. Alors, cependant, Ali, on se cache rien. Si ma chronique est sur la relation soignant-soigné, je dois vous avouer que je vis un enfer depuis 3 ans, depuis qu'un individu a écrasé son mégot de cigarette sur la selle de mon vélo en pleine nuit au sortir d'un bar ou d'une boîte, je sais pas. J'étais en train de dormir dans mon lit quand c'est arrivé. J'ai trouvé 5 gros trous calcinés dans ma selle au matin. On va l'appeler Marc, cet individu. Marc, donc, il faut que tu saches, j'irai chercher ton âme dans le froid, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu souffres encore. Parce que Marc, à cause de toi, chaque fois qu'il pleut, de l'eau rentre dans la selle de mon vélo, la selle qui est en mousse, et moi, comme je n'y pense jamais que je suis une tête de linotte, chaque fois que je monte sur mon vélo après la pluie pour aller en visite à domicile, mon poids écrase la selle, fait ressortir toute l'eau de la mousse par les petits trous, en conséquence de quoi j'arrive au cabinet médical ou chez les gens avec une grande auréole sombre au niveau de l'entrejambe. Comment j'explique ça aux patients en salle d'attente, Marc, cette tache sombre mal placée ? Non, je ne t'aime pas, Marc. J'ai essayé de mettre du scotch sur les trous. Il tient 2-3 semaines à tout casser. En désespoir de cause, j'ai mis un sac plastique sur la selle, mais c'était un sac plastique de la formidable librairie Gilbert Joseph. Vous savez, le sac plastique jaune pétard. Et résultat, avec le soleil et les intempéries, je sais pas quoi ou je sais pas qui, le jaune est déteint sur mes pantalons et je me retrouve avec des longues traînées jaunâtres au niveau de l'entrejambe. Marc, est-ce que tu te souviens avoir écrasé ta cigarette sur ma selle un soir de beuverie ? Si c'est toi, je te promets, je dis rien, je veux juste que tu m'écrives à France Inter pour m'expliquer pourquoi tu as fait ça. Qu'est-ce que ça a soulagé en toi d'écraser ce mégot ? Alors, je vous vois venir, Ali, hein, on va me dire, mais pourquoi tu ne changes pas la selle de ton vélo ? Eh bien, je ne sais pas, Ali, je fais une fixette sur cette selle et sur ce que sa dégradation gratuite symbolise de nous, de notre société, de notre manière de vivre les uns avec les autres, parce que je veux dire, elle était très bien cette selle de vélo, elle faisait bien son travail de selle, elle était assez large, elle était assez épaisse, elle était assez moelleuse pour mon auguste derrière, bref, c'était une chouette selle de vélo pour un médecin. Et c'est peut-être même pour cette raison-là précisément que je veux pas m'en débarrasser, Ali, parce que c'est pas à cette selle de changer, c'est aux gens.
Et tous les marques qui vous écoutent seront ravis que vous ayez choisi ce prénom pour nommer cet individu horrible que vous avez décrit ce matin. La chronique de Baptiste Beaulieu à podcaster sur toutes les plateformes et à partager sur les réseaux sociaux. Dans un instant, donc, comment choisir la bonne paire de chaussures pour courir ? Ce sera juste après PR2B qui interprète Rayon Gamma à 10h49.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit. Dis-moi, minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent. La vie reprend. Alors c'est comme ça. On faisait comment déjà sans les rayons. Je deviens dingue, Paris bouteille. Tu Titanic coule sur l'oreiller. Et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil. Y'a que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier. Et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça. On faisait comment déjà? Sans les rayons gamma. Alors, si on change. Je crois qu'on s'est touché là. Joue la vie, ça rend fou. Mais je voudrais qu'on court jusqu'à l'en finir et puis tout recommencer. Alors c'est comme ça. On faisait comment déjà? Sans les rayons.
De B interprété Rayon Gamma.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
Et ce matin, des conseils pour se mettre ou se remettre à la course à pied sans se blesser, en préservant ses articulations. Manu nous dit « Je me suis mise à la course à pied après un cancer du sein il y a 2 ans. Cette maladie a été un déclic, il fallait que je prenne soin de moi. J'ai mis 6 mois pour courir 5 kilomètres. Désormais, je cours 15-20 kilomètres par semaine, bravo. Et je ne pourrai plus m'en passer. Cette pratique fait partie de mon hygiène de vie. Et j'ai porté mon premier dossard le 1er mai dernier pour un trail de 10 kilomètres. » Beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Rosemary qui nous dit « J'ai toujours beaucoup de courbatures, même après un entraînement régulier. Avez-vous un conseil, Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule ?»
Ben alors, comme je l'explique dans mon livre, sur les courbatures, il n'y a pas de miracle en fait. Hein. Les étirements ne permettent pas d'éviter les courbatures. Ça, la littérature scientifique est claire là-dessus. Maintenant, on en est sûr. Donc, il faut respecter une bonne hydratation après sa course. Les rouleaux de massage, les automassages peuvent faire du bien, mais c'est vraiment un effet à court terme. Quand la meilleure façon d'éviter les courbatures, c'est d'avoir un entraînement de qualité pour pouvoir repousser au maximum la survie venu de ces courbatures. Si on est bien entraîné, qu'on s'entraîne régulièrement, en général, on a un corps qui est bien adapté et on a moins de courbatures. C'est vraiment le meilleur conseil, c'est de bien s'entraîner parce que sinon, il n'y a pas de méthode miracle. Mais l'hygiène de vie, bien dormir, bien s'hydrater, faire un peu d'automassage, c'est ce qui semble le plus pertinent.
Beaucoup de questions aussi qui vont dans le même sens, d'auditeurs qui sont essoufflés. Comment réduire cet essoufflement? L'idée, c'est peut-être de pouvoir parler quand on court. C'est la bonne cadence, Nicolas Tikhomirov. C'est un repère.
La bonne cadence. Alors déjà, il faut respirer calmement. Il faut pas. Des fois, on voit des gens qui essaient de trop intellectualiser leur respiration. C'est pas bon. Plutôt respirer calmement. Et évidemment, si jamais on court trop vite, on a trop d'intensité, on va avoir le rythme cardio-respiratoire qui va un peu s'emballer. Et là, c'est là que peut apparaître des points de côté, qu'on a du mal à maîtriser sa respiration. Donc, il faut juste diminuer un peu l'intensité, courir un peu moins vite, en essayant de garder la bonne cadence, donc en continuant de faire des petits pas, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais voilà, il n'y a pas de technique vraiment particulière, juste essayer de respirer calmement et profondément.
Franck nous demande quelle est la bonne manière de courir. Faut-il attaquer sa course avec l'avant du pied ou en posant d'abord le talon? Vaste question, je suis pas sûr qu'on trouve une solution là ce matin. Philippe Maca, vous qui avez publié Je pratique le running pour les nuls, vous avez une réponse à cette question, à cette interrogation?
Non, pas tellement.
Merci.
Je ne pense pas, il faut courir comme comme vous vous sentez bien.
De façon intuitive.
De façon intuitive, ouais. Voilà, exactement, de façon intuitive.
Nicolas Tikhomirov.
Alors c'est vrai, il faut pas intellectualiser sa foulée, sa course. Par contre, la science nous montre quand même à l'heure actuelle que l'attaque talon a beaucoup plus de répercussions sur tout l'ensemble de notre corps, hein. Donc ça peut être problématique pour nos articulations et tout ça. Donc la foulée idéale serait plutôt une attaque médio-pied quand on pose le pied à plat, voire sur l'avant-pied. Donc c'est comme ça qu'on a une vitesse d'impact vertical qui est la plus faible, donc qui aura le moins de répercussions biomécaniques sur notre corps.
Philippe Paca, vous dodeliner.
Non, parce que c'est quand même très compliqué, si vous voulez. Je crois qu'il faut, comme j'ai dit, il faut courir de façon intuitive, voilà, pour ne pas prendre trop de risques non plus.
Vos conseils pour bien choisir ses chaussures de course, faut-il forcément investir dans des chaussures très coûteuses, Philippe Maca?
Non, je pense pas. Enfin, de toute façon, il faut surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, investir dans des chaussures de course à pied. Et non pas prendre des chaussures
des
baskets, voilà. Donc, il faudra déterminer si vous êtes pronateur, supinateur.
Ça veut dire quoi, pronateur,
alors,
supinateur?
Pronateur, c'est votre pied qui bascule vers l'intérieur. Supinateur, c'est le contraire, il bascule vers l'extérieur. Et quand vous êtes universel, ben, écoutez, il ne bascule pas du tout. Donc, le mieux, c'est quand même de déterminer quel est, si vous êtes l'un ou l'autre. Vous pouvez vous rendre dans un magasin de sport où les vendeurs sont compétents. Oui. Et ce sont eux qui pourront bien vous conseiller en fonction de la nature, si vous voulez, de votre pied, voire encore mieux aller chez votre podologue qui vous donnera les meilleurs conseils pour bien vous chausser.
Nicolas Tikhomirov, un petit conseil pour bien choisir ses chaussures.
Oui, en fait, on a deux types de chaussures. On a la chaussure maximaliste traditionnelle, qui va être plus lourde, plus rigide, et la chaussure minimaliste qui est assez moins épaisse, moins d'amorti, plus flexible. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on a besoin de faire, on va choisir plutôt l'une ou l'autre. Si on a une blessure au pied, on va plutôt partir sur une chaussure maximaliste qui va protéger le pied. Par contre, si on veut chercher un peu plus de performance, on va être sur une chaussure plus simple. Après, ça va dépendre si on va courir un 10 km ou un marathon. Si on court un marathon, on a besoin d'un peu plus d'amorti, d'avoir plus de confort. Donc c'est vraiment en fonction de ses objectifs, si on est blessé, si on n'est pas blessé, si on veut progresser, si on veut pas progresser. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer la pronation, la supination. Maintenant, la science nous montre qu'elle a finalement peu d'impact. C'est plutôt du marketing et du commercial pour nous vendre des chaussures qui sont très chères. Donc j'ai envie de dire une chaussure la plus simple possible avec le moins de technologie dedans. En général, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une chaussure qui va avoir le moins de répercussions sur notre corps.
Vos derniers conseils pour conserver la motivation quand on est sur le point d'abandonner, peut-être se concocter une playlist musicale très entraînante. Hein. Quand il court, le romancier Murakami, fou de marathon, écoute les Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Beck et les Beach Boys. Et vous, Philippe Maca, vous écoutez quoi, vous? Vous écoutez de la musique?
Je n'écoute pas de musique. Ah, non.
Vous êtes très puritain. Pas de musique.
Je n'en ai pas besoin pour me motiver.
Et vous, Nicolas Tikhomirov, vous écoutez un peu de musique?
Ah, toujours du hard rock, moi, à fond, et avec un bon tempo à 180 pour que je sois bien calé sur la cadence. Et là, ça va à fond, là.
Et vous, professeur Martine Duclos, racontez-nous les coulisses.
Ah ouais, moi, je pars avec un problème en tête. Généralement, ça résout les problèmes, c'est super.
Ah ouais, je vous reconnais bien là. Et vous, Irène Margaritis, vous qui ne courez pas, vous faites énormément de vélo.
Oui, je ne cours pas.
Et voilà. Coming out en fin d'émission. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Professeur Irène Margaritis, merci. Professeur Martine Duclos, merci. Philippe Maca, je pratique le running pour les nuls, c'est très très bien fait, c'est publié chez First. Merci Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule. Rappelez le titre de votre dernier livre.
Bien dans votre corps, chez Albin Michel.
Et merci aux équipes de France Bleu Auvergne et de France Bleu Aix-en-Provence. Demain s'intéresse à l'alimentation anti-déprime en compagnie du psychiatre Guillaume Font, avec la médecin nutritionniste Catherine Lacronière et avec Christophe André.